68, moi je l'ai vraiment vécu comme un miracle. C'était la réalisation de tout ce que je portais depuis très longtemps en moi, c'est-à-dire l'aspiration féministe, l'aspiration à une libération.
Ce qu'on appelle libération sexuelle, ça a surtout été une libération des hommes. La libération sexuelle a été une nouvelle oppression des femmes.
Le sujet de l'égalité homme-femme et du féminisme, c'est un sujet fondamental. On ne pourra pas changer le monde si on ne change pas la condition des femmes et les rapports hommes-femmes.
Changer la vie. Jouir sans entrave, libérez-vous. En mai 1968, les slogans illustrent la volonté de bousculer une société trop corsetée. La jeunesse étouffe ou s'ennuie, et dans ce mouvement de contestation qui balaye l'ordre établi, beaucoup de jeunes femmes voient l'opportunité de prendre leur vie en main. Depuis 3 ans, les femmes peuvent travailler et ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari, mais elles sont toujours sous la coupe du chef de famille. Et si la pilule vient tout juste d'être autorisée, l'avortement, lui, reste illégal. Au fil des grèves, des manifestations, des assemblées générales, des femmes prennent la parole pour faire la révolution, mais aussi pour défendre leur cause. En mai 2018, 50 ans plus tard, où en est-on ? L'affaire Weinstein, qui aboutit aujourd'hui à l'inculpation pour viol et agression sexuelle de l'ancien producteur hollywoodien, a pris une ampleur planétaire et les hashtags MeToo et Balance ton porc ont amené de très nombreuses femmes à s'exprimer. Quels droits les femmes ont-elles réellement acquis aujourd'hui ? Quels sont les combats qu'il reste à mener ? Combat de femmes, de mai 68 à MeToo, c'est un magazine signé Sophie Delpont. Pour ce magazine qui fait le pont entre l'histoire et l'actualité, nous avons invité 2 historiennes, toutes les 2 féministes d'ailleurs. Michèle Perrault, spécialiste de l'histoire des femmes, bonjour.
Bonjour.
Vous avez de nombreuses publications à votre actif. Vous avez notamment co-dirigé l'ouvrage « Filles de mai 68, mon mai à moi, mémoire de femme » paru aux éditions Au bord de l'eau. Et bonjour Malka Markovitch.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des droits humains et des droits des femmes. Vous avez écrit « L'autre héritage de 68, la face cachée de la révolution sexuelle » chez Albin Michel. Nous allons écoutez ensemble le reportage de Sophie Delpont. Sophie, vous vous êtes rendue à Nantes, à Marseille et en banlieue parisienne pour rencontrer des femmes qui vous ont raconté leur mai 68.
Oui, des femmes qui se sont engagées en mettant leur lycée en grève, en créant des groupes pour militer dans les universités et dans les usines. Très actives, mais dans l'ombre des leaders, tous des hommes. Elles nous raconteront leur prise de conscience, le réveil féministe et leur combat pour prendre leur liberté en révolte face à l'ordre social et patriarcal. Elles nous donneront aussi leur vision de la libération sexuelle à l'époque dans laquelle certaines femmes ont pu connaître parfois une nouvelle forme d'oppression. 50 ans après, on mesurera avec elles le chemin parcouru et ce que révèle le mouvement de libération de la parole MeToo.
On part d'abord à Flins, dans les Yvelines, où les ouvriers de Renault ont brutalement arrêté les machines le 16 mai 1968.
La nouvelle société que nous cherchons maintenant, elle est à notre porte. Il n'est plus question maintenant de discuter dans des amphithéâtres.
Alors, je m'appelle Fabienne Lauré, je suis retraitée de Renault Flins. J'habite dans le village de Flins, qui est à côté de l'usine. Comme beaucoup de gens, 68 a changé ma vie. Parce que j'étais lycéenne, j'aurais peut-être pas atterri ici s'il n'y avait pas eu le mouvement de mai 68. On s'est rebellé contre des choses qui nous dérangeaient. Une éducation très très stricte, on n'avait pas le droit de mettre des talons, on n'avait pas le droit de se maquiller, on n'avait pas le droit de mettre de pantalons. C'était l'expression d'une société très rigide, qui étouffait en fait. Il fallait que ça éclate quoi, pour changer. J'ai mis mon lycée en grève, on a fait des avec d'autres copines, on a fait des commissions, on a refait le monde. Quoi. Et j'allais en même temps aussi au quartier latin, avec mon compagnon. Et je pensais qu'il y avait quelque chose qui se passait d'inédit, que j'avais jamais vécu. Parce que c'était une ambiance incroyable, de libération de la parole, des comportements des gens qui étaient beaucoup plus ouverts, une bienveillance, je trouve, voilà. Quelque chose qu'on aimerait voir tous les jours aujourd'hui. Et il y avait des manifestations tout le temps, il y avait des choses intéressantes. Alors là, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas, les questions internationales. J'ai vu un film sur l'accouchement sans douleur que je n'avais jamais vu, alors que ma mère était assez libre, puisqu'elle m'avait fait prendre la pilule à 15 ans et demi. Ouais, puisque j'étais avec mon compagnon, et elle se dit « Ah ben, ça peut arriver, donc il faut que tu prennes la pilule et tout ça ». Pour elle, c'était très important que les femmes puissent maîtriser leur corps. Donc elle m'a, quelque part, transmis on disait pas féministe à l'époque, mais m'a transmis un comportement féministe et une vision du droit des femmes à maîtriser leur corps. Je crois d'ailleurs que c'est, pour moi, c'est la révolution la plus importante du XXe siècle. C'est le fait que les femmes puissent maîtriser leur corps avec la popularisation de la contraception et de l'avortement accessible qui ne soit pas considéré comme un crime.
Souvent, on a l'habitude de voir des images de leaders masculins. Vous en pensez quoi aujourd'hui de cette façon dont on a transmis mai 68 ?
Quelque part, il y a quelque chose de vrai. À la base, les femmes étaient, les jeunes filles, les jeunes femmes et les femmes étaient très actives, que ce soit dans les lycées, les facultés, dans la rue, dans les bois, dans les usines. On voit d'ailleurs des films où les femmes sont assez à la pointe, mais elles sont pas mises devant. D'ailleurs, aux accords de Grenelle, effectivement, il y a pas une seule femme aux accords de Grenelle. Quand on voit les défilés, il y a des rangées d'hommes. Mais dans les facs, elle prenait la parole dans les assemblées générales. Mais elle n'était pas, mise en avant et souvent on les reléguait à s'occuper, de la maintenance, de faire les sandwichs ou distribuer des tracts ou je sais pas quoi. Donc c'était là, mais c'était pas, à la hauteur, quoi. Quand il y a eu ces jeunes femmes qui après sont devenues le MLF, qui ont amené une gerbe pour la femme du soldat inconnu, plus inconnu que le soldat lui-même, ça m'a vraiment frappée. Je me suis dit, il y a eu un déclic, et c'est ça qui a été le déclic, je crois, parce qu'il y avait déjà des féministes quand même. Le livre de Simone de Beauvoir avait eu du succès, et c'est vrai que ça a été une révélation, parce que on se disait, mais bon sang, mais bien sûr, c'est ça. Tout ce qu'on ressentait, c'était ça. Mais il a fallu se battre pour que les femmes puissent avoir la parole, pour de dire que c'était pas une question qu'on devait reléguer après, quand on aurait changé le monde. Mais non, que ça en faisait partie aujourd'hui.
Quels sont mes catalogues En banlieue parisienne, près de l'usine Renault, Fabienne Lauré nous emmène chez elle, dans ce qu'elle appelle le local, une petite pièce de sa maison où elle conserve des dizaines d'archives.
Ça, c'est une copine de l'atelier, Joël.
Convaincue à l'époque par les théories d'extrême gauche, elle abandonne ses études de philo pour aller travailler à l'usine, par conviction. Elle fait alors partie de ce qu'on appellera les établis, ces jeunes étudiants qui partent s'installer, s'établir dans le monde ouvrier pour l'infiltrer et diffuser les idées révolutionnaires.
Ça, c'est une distribution de tracts à l'usine, sous la pluie. Voilà, c'est l'entrée de l'usine.
Donc vous êtes embauchée à l'atelier couture et vous devenez déléguée syndicale de l'usine de Renault Flins.
Comme j'avais été repérée comme étant la seule gréviste, les syndicats viennent me voir. Et la première organisation qui vient me voir, c'est la CFDT. Sur les questions sociétales qui intéressaient la CFDT, notamment la question de l'avortement, puisque la CFDT était membre du MLAC, Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception, et on a commencé à créer un MLAC sur l'usine avec la CFDT. La CGT n'avait pas encore eu sa vague féministe, disons. Et c'est vrai que j'avais des demandes dans l'atelier pour des avortements clandestins. Dans le coin, il y avait des réseaux de médecins qui pratiquaient des avortements avec la méthode Carman par aspiration. Dès que je suis rentrée dans l'usine, j'ai été confrontée au machisme et à la question des femmes. Là, l'atelier de la couture, beaucoup d'hommes l'appelaient le parc à moules. Ça m'avait choquée, parce que j'avais jamais entendu ce mot-là. En plus de ça, je disais quoi, je ne comprenais pas. Et après, quand j'ai compris ce que c'était la moule comme symbole du sexe de la femme, et puis le fait aussi d'être sifflée, quand j'allais sur les chaînes en tant que déléguée, mais dès qu'une femme passait dans un atelier d'hommes, elle était sifflée. Et c'est vrai que quand je distribuais les tracts, y avait des gars qui me prenaient la main en même temps, qui me faisaient des sourires bizarres. Quand j'allais sur les chaînes, ils croyaient que j'allais les draguer alors que j'allais seulement discuter les revendications. C'était assez lourd, quoi. Il y avait des blagues lourdes. Il y avait, dans les ateliers professionnels, il y avait des calendriers avec des femmes nues. Et puis, il y avait du harcèlement sexuel. Avant, on appelait ça le droit de cuissage, mais plusieurs cas de harcèlement sexuel. Jusque dans les années 2000, même après, La première chose que j'ai vue, aussi, à part le parc à moules, c'est, je suis rentrée en mai et il y a eu la fête des mères. Et là, c'était la CGT qui était hégémonique, qui gérait le CE. Et les CE organisent la fête des mères. Bon. Et là, je me rends compte que les femmes arrivent avec leur cadeau. C'était un tablier de cuisine, avec une manique pour servir les plats. Alors, c'est vraiment le symbole, la femme servante à la maison, quoi, qui fait la cuisine. Il y a eu cet épisode que j'ai vécu en 1975, où j'avais 25 ans. Le 25 novembre, c'est la Sainte-Catherine. Et on fêtait encore les Catherinettes, là. C'est une tradition qui a été créée dans le milieu de la mode et qui s'est étendue. Et comme nous, on faisait de la couture, ça avait un peu en lien avec ça. Ce sont les jeunes femmes qui ont 25 ans, qui ne sont pas encore mariées, qui sont célibataires et qui doivent absolument trouver un mari parce que ça ne faisait, à partir de 25 ans, on devient une vieille fille. Voilà. Et on est ostracisé parce qu'on est une vieille fille, on ne trouvera jamais de mari, on ne fera jamais d'enfant, etc. Et notre vie sera foutue. Donc on fête la Catherinette, donc on vous prépare un chapeau très énorme, décoré en jaune et vert. Et là, il y avait une voiture là sur mon chapeau. Donc on m'a dit, demain, c'est Catherinette. et tu auras un chapeau et tu pourras te balader dans toute l'usine comme les autres Catherinettes. Avec ton chapeau, tu ne travailleras pas, le patron paye la journée et chaque fois que tu rencontreras un homme célibataire, il pourra t'embrasser, te faire un bisou. Et peut-être que tu trouveras ton prince charmant ou je ne sais pas, voilà, c'est ta... Et moi, je dis, mais je ne peux pas, je ne suis pas d'accord, c'est une mascarade. Pour moi, j'étais féministe, j'ai dit, ce n'est pas possible, moi, je suis pour l'égalité homme-femme et donc je refuse. Et les filles à l'atelier, il y en a une bonne partie qui me dit, mais ça ne va pas, profite de ta journée, t'es pas rigolote, t'as pas d'humour, faut prendre ça à la légère, c'est rigolo. J'ai dit non, non, c'est pas possible. Moi, d'abord, je suis en couple, donc j'ai pas besoin d'être mariée. Une femme a besoin d'être mariée pour être une vraie femme. Et en plus de ça, je ne suis plus vierge. Donc voilà, donc certaines ont rigolé. Mais le sexisme et le machisme, c'est vraiment très, très tenace. Et même encore aujourd'hui, en 2018, il faut continuer les stéréotypes, les poupées pour les filles et les camions pour les garçons, bleu, rose, etc. Oui. Et les cadeaux de fête des mères, ménagers. Ça continue, ça, c'est vraiment ancré. Il faut évidemment contrecarrer tout ça. Le sujet de l'égalité homme-femme et du féminisme, ce n'est pas un sujet secondaire, c'est un sujet fondamental. On ne pourra pas changer le monde si on ne change pas la condition des femmes et les rapports hommes-femmes. On ne peut pas faire la révolution, changer, révolutionner le monde, lutter pour un monde meilleur, si on ne prend pas à bout de bras, hommes et femmes, ce combat-là.
Nous sommes les nouveaux partisans, frontières de la guerre des classes, les camps du peuple et l'autre camp. Nous sommes les nouveaux partisans.
Regardez l'exploité quand il rentre le soir. Et regardez les femmes qui tripent toute leur vie. Vous qui bavez sur nous.
Nous partons maintenant à Nantes pour rencontrer Louisette Guibert. En mai 68, elle est étudiante à la fac de lettres et participe à toutes les manifestations. Mais face à la manière dont les jeunes femmes y sont traitées, elle a une autre prise de conscience. Elle devient féministe.
Absolument. C'est le fait, comme moi j'ai toujours été dans des écoles non mixtes, en fait dans des écoles non mixtes, le leadership, on le prenait si on avait la personnalité pour le prendre. Il n'y avait pas une question de répartition des rôles sexués. Et par contre, ce que j'ai découvert en mai 68 à la fac, et là ça était pour moi vraiment une espèce de choc, c'est qu'en fait tous les leaders étaient des hommes, que ce soit dans le mouvement étudiant, dans le mouvement syndical ouvrier ou dans le mouvement syndical paysan, c'était que des hommes. Et que nous, les filles qui avions des choses à dire, il fallait qu'on s'inscrive très longtemps à l'avance pour prendre la parole en âgé, etc. On avait un peu intégré le fait que forcément, puisqu'il y avait que des hommes qui étaient les leaders, notre parole n'était peut-être pas légitime, donc on attendait. Alors que les garçons ont l'habitude de prendre la parole beaucoup plus facilement. Et j'ai découvert, d'une part, cette différence de traitement, et d'autre part, ce que j'ai découvert, c'est aussi le collectif de femmes. C'est-à-dire que c'est là où, avec d'autres amis ou camarades de la fac, tout d'un coup, on s'est dit, mais attends, nous aussi, on a des choses à dire. On réussit aussi bien dans nos études, on est aussi cultivés qu'eux, on a autant d'idées. Voilà. Donc, j'ai pris conscience de cette différence par rapport à la parole. Et puis, les organisations politiques de l'époque, y compris les syndicats, disait, bon, quand la classe ouvrière sera libérée, on s'occupera des femmes. Ils pensaient, eux, que la libération, l'émancipation allait entraîner de fait l'égalité entre les hommes et les femmes. Or, nous, on sentait bien que c'était faux. On le voyait dans la réalité, justement, des leaders, etc., et de la façon dont on était traités. On le voyait bien. Moi, j'ai toujours refusé d'apprendre à taper à la machine. Pourquoi ? Parce que c'était toutes les copines des leaders qui tapaient les textes, etc. Vous voyez ?
C'était un piège, en fait.
Oui, c'était un piège.
Mai 68 et le réveil de la conscience féministe dans les années 70 font évoluer les rapports entre hommes et femmes, même si les mentalités et le partage des tâches avancent très lentement, même chez les couples de militants.
Moi, je m'appelle Babette Josua, et donc j'ai 75 ans, j'avais 25 ans en mai 68.
Moi, je m'appelle Samy Josua, donc j'avais 21 ans en 68, j'étais un des animateurs de la lutte étudiante, dirions-nous. Et déjà, selon le conjoint, du moins le compagnon de Babette, et nous sommes mari et femme.
Et vous-même, est-ce que vous étiez déjà, ou est-ce que vous êtes un homme féministe ?
Il faudrait dire oui et non. Non d'abord, parce que l'importance de ce combat était pratiquement presque inexistant dans les années juste précédentes, dans les consciences et au mois de mai. Mais oui quand même, parce que les mœurs que nous avions, à la fois pratiques de génération et politiques, étaient quand même beaucoup plus égalitaires que ce qui existait dans le reste de la population. Parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas d'actrices, que c'était des petites mains, etc. C'est vrai, mais exagéré. Et à force d'exagérer ce point-là, on passe à côté du fait que le mouvement en tant que tel comptait autant d'hommes que de femmes, autant de jeunes filles que de jeunes garçons. Et chaque fois qu'elles avaient la possibilité de mettre les lycées en grève, qui n'étaient pas mixtes à l'époque, hein, de prendre des responsabilités, elles les prenaient. Donc, à force d'insister sur le fait que les porte-paroles, les grands porte-paroles, étaient que des hommes, ce qui est vrai, on passe à côté de la présence réelle des femmes dans le mois de mai, le mois de juin, dans ce qui était avant, ce qu'il y a eu après.
La question de comment on prenait des responsabilités se posait, s'est posée sérieusement. Par exemple, les prises de parole. Un truc à être très important, de limiter le temps de parole. Parce que, surtout après 68, je ne sais pas si vous connaissez le mot d'ordre, ce n'est qu'un débit, continuons le débat. Et remplacer, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Mais c'est vrai que les gens parlaient, et les mecs s'écoutaient parler. Et les responsables politiques parlaient longuement. Et donc, les femmes qui avaient deux ou trois trucs à dire, surtout la première fois, elles ne parlaient pas. Donc, le fait d'imposer, de limiter le temps de parole de tout le monde, ça a été un des éléments qui a permis que les femmes prennent la parole au même type que les autres. Et le fait de ne pas faire des réunions tous les soirs à 6h du soir, parce qu'en plus, nous, les femmes, on avait des gosses à cette époque. Voilà, donc faire des réunions à 6h du soir, quand vous avez des bébés à la maison, ça veut dire que les femmes restent et on a beau partager les tâches. On a eu quelques débats à cette époque sur le partage des tâches. Voilà.
Ah. Vous avez le souvenir ?
Mais bon, un exemple, bon, on était tous les deux dans la même organisation politique et cette organisation avait des liens internationaux. Et lors de la révolution portugaise, on m'a proposé d'y aller. Et on venait d'avoir notre deuxième enfant, qui venait à peine de naître. Mais c'est vrai que la question ne s'est pas posée pour moi. Je l'ai laissé lâchement à ma femme. Et je suis parti là-bas pour plusieurs mois quand même. Hein. On n'a même pas discuté, même pas deux minutes. J'ai pris la décision en disant, bon, je vais y aller. Et j'y suis allé. Voilà. Et donc elle, pendant ce temps-là, elle avait deux enfants, donc l'aîné. Et puis le tout jeune qui avait quelques mois. Quoi. Et je crois que vraiment, juste quelques années après, ça n'aurait pas été possible.
Changez la vie, libérez-vous, il est interdit d'interdire. Ces slogans criés dans les cortèges ou inscrits sur les murs des universités, à Marseille, Claude de Peretti décide de les concrétiser dans son mode de vie, en révolte contre l'ordre social et familial.
J'avais 23 ans en 68. J'avais trouvé un biais qui était me marier avec quelqu'un que mon père acceptait et pouvoir m'enfuir de la maison de cette manière-là. Avant 68, je ne pouvais pas faire un papier d'identité sans la signature de mon mari. On n'était pas adultes, on n'était pas des personnes, quoi. On était considérés comme une partie de l'autre, quoi. Et ça, c'est vrai qu'au quotidien, c'était un peu insupportable, quand même. Les choses ont quand même beaucoup bougé avec mai 68.
Donc vous avez appliqué dans votre vie, après mai 68, les idéaux, on peut dire les utopies de l'époque.
Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire qu'on est parti sur... pour bouger le monde, il faut bouger les rapports humains. Nos rapports à notre famille, ce qui n'a pas été facile, à nos conjoints. On avait fondé une communauté avec certains des gens avec qui j'avais fait mai 68. Une grande maison avec plein de champs autour. Voilà, communauté dans laquelle on voulait remettre en question les rapports de couple, mais aussi... les rapports avec les enfants, remettre en question le patriarcat. Donc on partageait tout. Ceux qui travaillaient amenaient leur salaire. On a été jusqu'à une vingtaine dans la communauté. On a tenu 10 ans, c'est la communauté la plus longue à Marseille. Alors on a été une communauté basée donc sur le partage. Partage de l'argent, partage des tâches. Beaucoup de discussions, on pouvait discuter quasiment une nuit entière sur... faut-il donner du beurre et de la confiture aux enfants au petit déjeuner ou pas ? Je plaisante un peu, mais ça pouvait être ça. Sur la confrontation entre le mode de vie qu'on avait et le social, c'est-à-dire on a pensé qu'il valait mieux infiltrer l'école autour, ça ne s'est pas passé sans quelques soubresauts, puisqu'à un moment, mon fils avait été étiqueté vivant en communauté, retard scolaire normal, alors qu'il n'était pas du tout en retard scolaire. Bon. Je me souviens d'une anecdote, hein, c'était nos enfants ont fait une manifestation pour avoir la télévision dans la maison des enfants, qui était séparée de la maison des adultes, et ils ont manifesté dans la cour. Donc on leur avait inculqué quelque chose de la révolte.
Et cette vie en communauté, c'était une vie aussi de partage amoureux. Il y avait une sorte de grande famille et aussi de relations très libres, quand on parle aussi de libération sexuelle.
Oui, on était sur chacun a le droit de faire ce qu'il veut, on peut dire comme ça. Mais on a le droit de dire oui ou non. On a toujours été vigilant qu'il n'y ait pas d'abus. Et ça, c'est vrai que par rapport à certains militants marginaux qui étaient dans d'autres communautés mais un peu plus violentes, nous on a toujours été contre.
Mais quand c'est non, c'est non. Quand c'est non, dommage. Range ton crayon, ta plume sauvage. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est non, mon vieux. Range ton.
Mai 68 est resté dans les mémoires comme une aspiration à la liberté sous toutes ses formes. Pour les femmes, c'est aussi une appropriation de leur corps, se souvient Louisette Guibert.
Vous voyez, la parole entre femmes, c'est pour moi vraiment issu de 68. C'est-à-dire l'idée que, comme la libération des Noirs, si vous voulez, que c'est un mouvement autonome qui pouvait permettre d'avancer. Et ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, avant 68... J'étais pas femme, c'est-à-dire j'étais pas avant tout femme, j'étais avant tout une personne, un être humain, si vous voulez. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose là de spécifique. Il y a eu tout le travail des groupes de parole sur notre corps nous-mêmes et justement ces problèmes de sexualité, si vous voulez, c'est-à-dire, bon, on était des jeunes femmes, donc on découvrait quand même les choses et le plaisir, etc., qu'est-ce que c'était, comment ça marchait, comment notre corps marchait, etc. Et ça, on l'a beaucoup appris, y compris avec des amis médecins, gynécologues, qui nous ont appris à regarder notre sexe avec une glace, etc. C'est des trucs qu'on n'aurait jamais osé faire avant, mais vraiment, c'était des trucs où se toucher, par exemple. Moi, avant l'âge de 22 ans, je ne m'étais jamais touchée. Je me suis rattrapée après.
Vous disiez donc que c'est une période dans laquelle vous êtes battue pour le droit des femmes à disposer de leur corps. La libération sexuelle aussi, vous l'avez vécue. Est-ce que ça a été une libération aussi des femmes?
Alors, ce qu'on appelle libération sexuelle, ça a surtout été une libération des hommes, de mon point de vue, parce que nous, les femmes qui étions des femmes modernes, au moment de mai 68, c'est-à-dire qui prenions la pilule, ce qui était quand même déjà, je rappelle, la pilule, c'est 1967. Donc,
le droit de prendre la pilule.
Oui. Nous qui prenions la pilule, on était finalement, d'une certaine façon, à disposition des hommes, des garçons. Eux, dans leur tête, le fait qu'on n'ait plus cette crainte d'avoir un enfant devait nous permettre d'avoir envie de n'importe quoi, n'importe quand. Voilà. Dès qu'ils avaient envie, ils proposaient. Ils ne se posaient pas la question, est-ce que nous, on avait envie ? Vraiment, moi, j'ai vécu des situations où maintenant, je dirais, c'est du viol. Mais pas du viol au sens être forcé, etc., mais du harcèlement psychologique qui fait, enfin, attends, t'es pas, on peut bien terminer la conversation par ça, c'est bien de le faire, etc. Alors que, bon, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on aime ça, moi j'aimais ça, mais qu'on a forcément envie à tout bout de champ et avec n'importe qui, c'est ça le problème. Et moi...
Vous voyez comme ça, en fait.
Oui. Moi, j'ai vécu ce qu'on appelle la libération sexuelle comme une injonction à la libération sexuelle. Voilà. Et je pense que je suis pas la seule. Et que c'est pas assez dit aujourd'hui par les féministes, etc. Et je trouve que la libération sexuelle a été une nouvelle oppression des femmes.
Et que pensez-vous de la condition des femmes aujourd'hui ?
Je pense qu'on a acquis, du point de vue du droit, l'égalité, l'égalité de droit. Dans les faits, il reste beaucoup à faire. Par rapport au mouvement MeToo, moi j'ai appartenu à beaucoup d'associations où on a lutté contre les agressions à caractère sexuel, le harcèlement sexuel, etc. Donc ça, je sais très bien que ça existe et que ça existe beaucoup encore au travail. Et on peut même se dire que pour des femmes qui avaient très très bien réussi, qui avaient déjà un certain âge, avoir attendu 2018... pour dire ça, je trouve que ça me déçoit un peu. Personnellement, je pense qu'on aurait pu le faire beaucoup plus tôt. Voilà. Il y a des femmes qui ont manqué de courage, me semble-t-il. Parce qu'une fois qu'on a réussi, on peut quand même dire les choses. Voilà. Mais c'est bien que ça se soit fait. Et c'est bien. Vous savez, il y avait eu un autre électrochoc. C'était quand Quentin a tué Marie Trintignant. À ce moment-là, moi, j'étais vice-présidente de SOS Femmes à Nantes. On a eu un nombre d'appels absolument incroyables. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un de célèbre ait été tué par son compagnon, ça voulait dire que ça, c'était aussi possible dans tous les milieux. Et ça a décoincé quelque chose de très très important. Donc là, je pense que ça décoince quelque chose de très important, MeToo. Tant qu'il y aura ce problème de violence faite aux femmes, de harcèlement, de violence, on ne peut pas avoir l'égalité de fait. La première cause de décès chez les femmes, c'est les violences en milieu privé. C'est incroyable quand même. Une femme, tous les 2 jours et demi, qui meurt sous les coups de son conjoint, avec notre niveau de développement, c'est quand même aberrant. Moi, ça me semble aberrant.
Nous sommes à Marseille, chez Liliane Nasser. Étudiante en 68, elle s'engage ensuite pour les droits des femmes. Les murs de son appartement portent encore les traces de ses luttes passées. Qu'est-ce qu'on voit sur cette affiche ?
Alors cette affiche, on voit le sigle féministe en rouge. Et c'est écrit « Groupe Femmes Latino-Américaines et Françaises » à Aix-en-Provence. Et ce qui est très très beau, c'est qu'il y a le dessin, enfin la forme de l'Amérique latine. Et on a la femme en bas qui sur son dos porte son enfant et par-dessus il y a son mari, par-dessus quelqu'un de la police j'ai l'impression, ensuite un notable, un juge ou quelque chose comme ça, et par-dessus encore des gens d'église et par-dessus encore l'armée qui tient le pays en main. Donc c'est elle qui porte tout sur son dos.
Comment s'est passée votre vie de militante ?
J'étais dans l'engagement féministe, où il y a eu les groupes femmes. Alors moi, j'étais dans une organisation, donc notre propos, c'était les groupes femmes travailleuses, c'était la priorité. Donc il y avait les groupes femmes, il y avait aussi le MLAC, un mouvement qui a rassemblé énormément de gens pour aider les femmes à avorter dans de bonnes conditions, puisque c'était interdit par la loi, et qui a abouti à la mobilisation, qui a fait que Simone Veil s'est engagée et a fait voter la loi au Parlement. Il y a vraiment eu un panel. Moi, je trouve que Marseille, c'est un exemple assez intéressant. Il y avait à la fois le MLF et la librairie des femmes, mais il y avait des groupes femmes de quartier, des groupes femmes par secteur d'activité professionnelle. Il y a aussi la maison des femmes du côté de la Plaine. Il y a eu, bon, je ne sais pas si c'est SOS Viol d'abord ou Femmes Battues d'abord. Donc c'était quand même assez diversifié. Puis c'est quand même le lieu où s'est passé le premier procès de pénalisation du viol. Le viol des jeunes femmes belges dans les Calanques se passe en 1974 et le procès a lieu en 1978. C'est Gisèle Halimi qui est venue plaider à Aix et là ça a été une mobilisation très 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 importante et c'était quand même un succès parce que pour la première fois, on arrivait à obtenir plus ou moins que la loi reconnaisse le viol comme un crime.
Alors que les 3 violeurs sont d'abord poursuivis pour coups et blessures, de simples délits, après 4 ans de lutte, l'avocate Gisèle Halimi obtient que le procès ait lieu à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.
Et ces 2 jeunes femmes qui ont peur de mourir, qui sont anéanties, vaincues, battues, humiliées, cessent de se débattre. Elles cèdent. Et c'est cela qu'on appelle le consentement.
L'avocate féministe fait de ce procès une tribune politique. Gisèle Halimi souhaite provoquer une prise de conscience.
L'enjeu, c'est changer les rapports fondamentalement entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple, au plan de l'amour, soit basé sur un rapport de force physique. Je dis que c'est quasiment du fascisme.
Les trois hommes sont condamnés à de la prison ferme. 6 ans pour le meneur, 4 ans pour les 2 autres. C'est un tournant majeur dans l'opinion. Et 2 ans plus tard, la loi reconnaît enfin le viol comme un crime.
Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 asservis, humiliés.
Ça, c'est la famille. Alors, c'est beau voir. À l'île de Ré, en 85, un an avant sa mort. Voilà.
Donc là, c'est une photo de Simone de Beauvoir avec vous sur la plage.
Oui, c'est ça, l'île de Ré. Voilà. Eh bien, je m'appelle Anne Zelinski, j'ai 82 ans, bientôt 3. Je suis féministe dite historique, c'est-à-dire ayant déjà fondé un groupe avant 68, actuellement présidente de la Ligue du droit des femmes, qu'on a cofondé avec Beauvoir en 74.
Comment définiriez-vous votre mai 68 ? Comment l'avez-vous vécu ?
Moi, je l'ai vraiment vécu comme un miracle, c'est-à-dire que c'était la réalisation de tout ce que je portais en moi sans savoir que c'était ça. En fait, ça a été la découverte d'un moment exceptionnel de l'histoire, d'une ouverture, et aussi une occasion pour moi d'exprimer ce que je portais depuis très longtemps en moi, c'est-à-dire l'aspiration féministe, l'aspiration à une libération. Je me suis embarquée sur la comète de 68, je crois que j'en ai jamais débarqué.
Et comment ça s'est passé à l'époque ? Vous étiez où ? Vous faisiez quoi ?
Eh bien, j'étais prof déjà, donc j'avais 33 ans. J'étais féministe déjà dans ma pratique, c'est-à-dire ayant refusé maternité et mariage, voulant vivre ma vie, comme on disait, en voie de libération. Donc, j'étais prête. Et dès que les événements ont explosé, j'ai été attirée par la Sorbonne, où je passais le plus clair de mon temps, dans la cour, à écouter, à regarder. Et donc, avec une copine, Jacqueline Feldman, nous avions fondé en fin 66 un petit groupe féministe radical qui s'appelait Féminin Masculin Avenir. Nous voulions nous démarquer un peu des féministes de l'époque, qui était bien sage, bien modéré, le mouvement démocratique féminin avec Marie-Thérèse Ekem. Et nous aspirions à quelque chose de plus fort, de plus radical. Et donc, nous étions là, dans les couloirs de la Sorbonne, à nous demander que ça faisait 15 jours déjà et que pas grand-chose sur les femmes. On s'est dit, on va déjà commencer à placarder des grands slogans sur les murs. Après, on s'est dit, si on allait plus loin et qu'on proposait un meeting sur les femmes. Et c'est ce qu'on a fait. On est monté à la salle de réservation. Et le type qui était le jeune étudiant qui était de service a trouvé l'idée excellente. Il a dit, oui, c'est vrai, pourquoi pas. Femmes et révolution, d'accord. Et il nous a proposé l'amphi des cartes pour 2 ou 3 jours plus tard. Le jour dit, on s'est pointé à l'amphi. C'était énorme, un gros amphi. Peu à peu, on a vu l'amphi se remplir. Des dizaines, des centaines de gens. Il y avait un enthousiasme, une joie, une curiosité pour cette question. Voilà. Pour moi, c'est la mort, c'est la brèche qui a réanimé ce féminisme qui était très cyclotimique. Le féminisme, c'est une lutte qui est comme un serpent de mer qui apparaît, qui disparaît. Bon, après, jusqu'aux années 70, FMA a continué. On était 6, mais ça fait rien. 2 garçons, 4 filles. On a fait plein de choses, écrit des lettres, pris des positions, fait une enquête sur la sexualité à Vincennes, sexualité des étudiants. Et puis évidemment, en 70, ça a été l'article de l'IDU international. Et puis, la première réunion de ce que les journalistes ont appelé le MLF. Donc vraiment, c'est une amorce. Les mots qu'on a employés en 70, c'était des mots forts. Oppression, machisme, phallocratie, etc. Ça veut dire que nous étouffions. On étouffe en tant que femme parce qu'il y a un poids qui vous empêche de vous exprimer, qui vous empêche de parler. Et c'est pour ça que là, quelque chose nous a permis de respirer plus large.
Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur les espoirs que vous aviez à l'époque, les combats que vous aviez lancés, menés? Qu'est-ce qui reste encore à faire?
On n'attend pas grand-chose, on se dit les choses vont très lentement. Mais là, l'affaire MeToo, ça m'a ravie parce que je me suis dit, mais c'est exactement dans la continuité de nos agitations de 70. Là, moi, j'ai organisé le premier colloque en 85 sur le harcèlement sexuel au travail. Donc, pour moi, ça repart. Vous voyez, c'est le serpent de mer. Ça descend, ça repart. Et je me suis dit, c'est formidable parce que c'est planétaire. Ça n'est plus occidental seulement. C'est planétaire. Donc, je pense que là, on est dans le vif du sujet.
La façon dont on, régulièrement, qu'on commémore mai 68, on met souvent en avant les mêmes leaders, toujours des hommes, vous en pensez quoi?
Ça me fatigue un peu, ça me fatigue, c'est pour ça que... Parce que quand même, mais faut quand même le dire, c'est pas les 3-4 gauchistes de service, c'est l'écologie qui a démarré là, c'est la consommation, c'est la contestation de l'autorité, c'est évidemment la libération des femmes... C'est toutes ces aspirations de tellement de millions de gens qui aimeraient vivre autrement. Au fond, on loupe l'essentiel de 68 qui est dans les marges, dans les détails, dans les coins. C'est pas Cohn-Bendit, c'est pas les Trotsky, il faut voir ce que ça a donné. Et je pense que c'est dans les coins et dans les marges que le 68 a été le plus créatif et fécond. Je ne renie rien de mon 68. C'est une formidable ouverture, une prise d'air. Enfin, on entrevoit, mais ça s'est vite refermé, on entrevoit ce que pourrait être le monde, où la relation humaine ne serait pas ce qu'elle est, c'est-à-dire quand même très étriquée, pas seulement entre hommes et femmes, de façon générale et en particulier dans ce pays. Moi, c'est ça que j'ai entrevu en 68. J'essaye de le faire. D'ailleurs, je pense toujours à une phrase, je crois que c'est de Arendt, qui dit qu'on peut recréer des oasis qui nous permettent de ne pas abandonner nos rêves. Voilà.
Prenez vos désirs pour des réalités. Désir, 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 désirez. Prenez votre temps pour de l'argent comptant. Comptez, 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 comptez bien les ans. Les ans qu'il vous reste à vivre et le temps perdu à suivre le troupeau. C'était mai, on s'aimait, et c'était mai, on s'aimait, et c'était mai 68, mai 68.
Combat de femmes de mai 68 à MeToo, un reportage de Sophie Delpont avec Annie Bro à la réalisation. Nos invités, les historiennes Michel Perrault et Malka Markovitch, ont écouté attentivement votre reportage, Sophie. Michel Perrault, Anne Zelinsky dit la créativité de mai 68, elle est dans les marges. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je trouve la parole d'Anne Zelinsky remarquable, absolument, aussi bien sur ce qu'elle a fait elle-même que sur son analyse de ce qui est fait. Oui, je trouve ça. Je trouve ce reportage magnifique, hein, vraiment. Je tiens à le dire.
Merci.
Il est intelligent. Il est. C'est formidable que vous ayez trouvé ces témoins qui sont dans différents milieux, qui parlent de différentes choses et en même temps avec une espèce de convergence, hein. Il y a une convergence dans ces paroles, d'où qu'elles viennent, et ça permet de se rendre compte de ce que 68 a pu représenter dans les profondeurs de la société, et notamment pour les femmes. Vraiment, je trouve ça formidable. C'est formidable aussi par l'évocation des difficultés. C'est les femmes qui n'ont pas la parole, et ça alors véritablement la parole publique des femmes, il n'y a rien de plus difficile. Les femmes, le privé, les parler en public, c'est une vieille, vieille, vieille histoire. Et ça, en 68, il y a beau avoir une grande explosion, une grande liberté, on considère toujours que les femmes, bon bah, elles sont là, c'est très bien, mais elles n'ont pas tellement à parler. Ça, je trouve que c'est tout à fait remarquable. Et puis, j'étais très contente aussi que vous évoquiez l'importance du corps, hein, le sens du corps, le fameux « notre corps, nous-mêmes ». Enfin, c'était vraiment un mot extrêmement important qui venait des États-Unis, « our bodies, ourselves », bon. Mais c'était repris par les femmes, les féministes françaises avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Et puis, vous avez évoqué le procès de 70, alors là, évidemment, on est 10 ans plus tard.
On est un petit peu plus tard. Alors justement, oui. On a ce sentiment, effectivement, que mai 68, ce n'est pas encore vraiment la libération pour les femmes. La création du MLF en 1970, c'est quand même directement lié à 68 ou pas? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu le petit temps de maturation
et... Oui, je pense que le MLF n'est pas né en 68, mais il est né de 68. Et il a été comme une brèche, enfin, l'expression est bien connue, c'est d'Edgar Morin, etc. Mais il l'a dit, lui, sur le plan politique. Je pense que Zelensky l'a dit, d'ailleurs, une brèche pour les femmes aussi. C'est un moment où, comme toujours, les femmes se sont toujours exprimées dans des brèches. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des séismes dans le pouvoir, dans l'organisation du pouvoir, pour qu'elles disent « et nous ». Et ça, c'était vrai. Alors, au 19e, on va pas revenir là-dessus. Mais 68 est dans cette continuité. Il y a une brèche dans le pouvoir. Et combien De Gaulle, tout le monde, ils savent pas où ils en sont. Pompidou reprend les choses en main, etc. Mais il y a quand même un ébranlement du pouvoir absolument considérable. Et les femmes disent, et nous, on parle pas de nous. Donc, ça, le MLF ne naît pas en 68, mais il naît de 68, pas d'ex nihilo, bien entendu. C'est branché sur tous les mouvements antérieurs. On a parlé de Simone de Beauvoir, et combien, signalons au passage que la Pléiade publie 2 tomes des mémoires de Simone de Beauvoir, avec un album réalisé par Sylvie Lebon de Beauvoir, qui est sa fille adoptive, qui est formidable, absolument formidable. Donc, les femmes ont une histoire. Elles ont une histoire qui vient de loin, qui vient de très loin, qui par moments disparaît, parce que le pouvoir patriarcal, c'est quand même quelque chose de très fort. Et puis, il y a des brèches, et alors là, les femmes sont toujours là. Et mythes. Tout, c'est une brèche. C'est une espèce de continuation dans la brèche.
Malka Markovitch, vous avez entendu le témoignage de Louisette Guibert qui dit « Mais 68, c'était surtout la libération des hommes. Et avec la pilule, on était à la disposition des garçons. » Donc en fait, au nom de la libération sexuelle, il y a parfois eu de la manipulation.
Il y a certainement eu de la manipulation, et c'est ce que je décris dans mon livre « L'autre héritage de 68 ». Qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un héritage bon. Je ne m'appelle pas Éric Zemmour, puisque certains ont compris le titre de mon livre, L'autre héritage de 68, la face cachée de la révolution sexuelle, comme si je remettais en question l'héritage de 68. Je ne le remets. Donc je dis ça au préalable parce que il y a des contresens. Je dis il y a aussi un autre héritage. Pour moi, MeToo est évidemment un héritage extrêmement fort, extrêmement puissant. Et effectivement, depuis que j'ai écrit ce livre, je reçois un certain nombre de témoignages, et notamment sur cette question de la pilule qui est considérée par les hommes comme une mise à disposition du corps des femmes. Et je n'avais pas pensé à ça, puisque moi je me suis intéressée en interviewant des personnes nées entre 1941 et 1971. J'ai pris le parti de m'intéresser à ce que ma génération, moi je suis née en 1959, comment elle découvre sa sexualité, son adolescence, les femmes découvrent leur corps, les jeunes filles découvrent leur corps dans ce contexte de la libération sexuelle. Donc effectivement, dans les témoignages, il y a eu beaucoup de choses passionnantes. Je suis tout à fait d'accord, évidemment, avec tout ce qu'a dit Michel Perrault. Je parle aussi de ce qui se passe dans les communautés, où d'un côté, on peut avoir des moments de grande liberté, des enfants qui vont jouer avec les petits moutons, avec les poules, etc. Et en même temps, des comportements de la part de leurs parents que l'on appellerait aujourd'hui pédocriminels.
Alors justement, c'était, on peut dire peut-être, dans certains cas, le désir du plus fort. Et dans ces cas-là, il pouvait y avoir des enfants victimes.
C'est pas, oui, il y a eu beaucoup d'enfants victimes. D'ailleurs, l'affaire de Flavie Flamand et les affaires de David Hamilton, qui étaient pris comme une espèce de très, très, très à la mode dans les années 70 avec ses petites nymphettes. Aujourd'hui, grâce à Flavie Flamand, des témoignages plus anciens prescrits sont venus alimenter tout ça. Et j'ai aussi eu des témoignages de jeunes filles qui ont parlé, enfin de jeunes filles à l'époque, qui ont parlé de cette espèce de courant où la nudité est quelque chose d'extraordinaire. C'est le moment où les femmes n'enlèvent pas leur soutien-gorge pour, où on dit, voilà, les femmes enlèvent leur soutien-gorge. Non, les femmes se donnent la liberté d'être torse nu sur les plages, comme les hommes sont torse nu. Parce que quelle liberté d'être torse nu. Il n'empêche que les hommes n'ont pas compris ce message à l'époque, et pour eux, c'est reluquer les femmes torse nu sur la plage. Et c'est tout à fait le contraire de la libération. C'est-à-dire que de nouveau, les hommes objectivent les femmes qui se libèrent, alors que simplement, elles ont besoin de créer avec leur corps, elles ont besoin de vivre leur corps, tout comme les hommes. Pourquoi des hommes peuvent être bedonnants sur la plage et des femmes... Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est ça qui se passe. Et finalement, il y a eu comme ça des espèces de glissements. Je pense que les hommes de cette époque n'étaient pas suffisamment prêts non plus à comprendre. Ils avaient aussi intériorisé tous ces stéréotypes de la même manière que les femmes avaient intériorisé le silence. La question qui se pose aujourd'hui, me semble-t-il, avec MeToo, c'est ce sont les hommes, un certain nombre d'hommes, qui persistent et signent alors que ces mêmes hommes avaient remis en question le maoïsme, le trotskisme, etc., à la fin des années 70, en disant voilà, le petit livre rouge de Mao, ça n'est pas si génial que ça, et ce sont des systèmes totalitaires. Et finalement, sur la question des violences sexuelles qui ont été commises dans le cadre de la libération sexuelle, c'est silence radio, comme s'il y avait quelque chose qui était fortement gênant. Et je voudrais juste terminer en disant que j'étais extrêmement touchée par votre article, Michel Perrault, dans Le Monde, lorsqu'il y a eu cette pétition pour le droit d'importuner, et qui vous a tellement... Vous parlez de sidération devant cette pétition, et j'en appelle aux femmes qui ont signé cette pétition et qui n'ont pas arrêté ensuite de dire « mais nous avons affirmé que le viol est un crime ». Eh bien, aujourd'hui, alors que notre gouvernement a fait voter une loi qui déqualifie le crime de viol sur mineur, puisque ça devient une agression, l'article 2 considère que c'est une agression sexuelle avec pénétration, j'aimerais bien que ces femmes qui ont revendiqué le droit à être importunées et qui n'ont pas arrêté de dire pendant les deux mois qui suivaient le viol est un crime, nous l'avons bien dit, eh bien aujourd'hui qu'elles disent non à l'article 2 de ce qui déqualifie complètement et qui est vraiment inquiétant, parce que d'un côté on a le mouvement MeToo et de l'autre côté on décriminalise le viol sur mineur.
Alors ce projet de loi, il est encore en cours d'examen par le Parlement. Michel Perrault, est-ce que ce mouvement MeToo puis Time's Up, donc né de l'affaire Weinstein, on peut le considérer comme un nouvel élan féministe aujourd'hui?
Ah oui, je pense que oui. Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et oui, je pense que le mouvement MeToo, c'est la prise de parole des femmes, continuée, certes, mais amplifiée, ne serait-ce que par les nouveaux moyens de communication. Hein. C'est la première fois, au fond, que les femmes ont pu prendre les réseaux sociaux. Hein, et du coup, ça a donné une espèce de résonance planétaire, comme le disait Zelensky tout à l'heure, à propos de MeToo. Ça, je crois que c'est très frappant.
Avec quelquefois une difficulté quand même, parce qu'on entend, il y a énormément de témoignages, ça arrive un peu dans tous les sens, et justement il y a des tribunes, des contre-tribunes, des caricatures, des gens qui n'ont pas l'air de s'écouter tellement les uns les autres en fait.
Oui, mais ça c'est un peu inévitable,
c'est pas grave.
Parce que c'est un brouhaha.
Hein, voilà.
Et dans un brouhaha, il y a des voix discordantes, et bien entendu, il n'est pas question ici, c'est pas du tout un haro sur les hommes qui seraient tous des violeurs. Pas du tout.
De toute façon, l'histoire de Haro sur les tout. Hommes et de la guerre, que soi-disant il y aurait une guerre des sexes, c'est vieux comme le monde aussi, puisque dans les années 70, on traitait les femmes du MLF de mal baisées, de frigides. Et vous parliez tout à l'heure de la question des médecins qui aidaient les femmes à prendre conscience de leur corps. Il y a eu aussi ce grand essor de la sexologie dans les années 70, et un des apôtres de la sexologie, Gilbert Turgeman, qui est mort avant que le procès n'ait lieu, puisque on a révélé aussi qu'est-ce qu'il faisait. Il pratiquait une rééducation sensorielle, c'est-à-dire des viols avec pénétration sur les femmes qui devaient absolument avoir accès au désir grâce aux manipulations de Gilbert Turgeman.
Alors, j'en reviens au mouvement MeToo, Michel Perrault. Comment est-ce que vous le voyez évoluer? Parce que au début, on a eu une série de témoignages, et puis on s'est dit ça va retomber, et en fait, pas du tout. Ça s'ancre vraiment dans la durée.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est que c'est pas seulement un moment d'indignation, mais c'est quelque chose qui s'étend dans différents milieux sociaux. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très important. Il faut répéter que la libération sexuelle des femmes et le respect de leur corps, c'est pas un truc bourgeois. Ça concerne toutes les femmes. Et dans les années 70-75, au mouvement de la lutte pour le droit à l'avortement, c'était très populaire. Parce que qui est-ce qui était particulièrement concerné par les problèmes de grossesse non désirée? Les femmes du peuple, les femmes des classes populaires, qui avaient encore beaucoup moins accès à la liberté que les femmes bourgeoises, c'est évident. Donc il faut, je crois, insister sur cette importance dans toutes les couches de la société. Ça me paraît très important. Et aussi dans beaucoup de pays. Il y a énormément de pays.
Et justement, ce qui est fascinant, c'est ce moment. Parce que, par exemple, en France, en 2011, quand il y a eu l'affaire Strauss-Kahn, on a entendu des gens comme Jean-François Kahn parler de troussage de domestiques pour dire que c'était pas si grave que ça. Et Tristan Bannon, quand elle a parlé de ce qui lui était arrivé, tout le monde lui est tombé dessus en la traitant de mythomane. Là, aujourd'hui, on est quelques années seulement plus tard et ça part.
Parce que, malgré tout, envers et contre tout, les esprits évoluent, les représentations évoluent. C'est pas fini. Il faut bien savoir que tout ce que nous avons évoqué, ça repose sur un système pas seulement millénaire, beaucoup plus que ça. Françoise Héritier l'a montré, de domination masculine, très très important, qui a structuré les rapports de sexe pendant encore une fois des millénaires. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait une avancée, puis tout d'un coup un recul, puis des gens qui disent tout ça c'est ridicule, ça ne nous concerne pas. C'est pas fini, et ça continuera encore. Mais le moment que nous vivons est un moment très important. Il est très important d'en prendre conscience, d'en faire l'histoire, d'en faire la sociologie aussi, de le replacer dans sa conjoncture et de continuer.
Malka Markovitch, on voit aussi comme le vocabulaire a changé. En 68, on parlait encore de droit de cuissage. Aujourd'hui, on qualifie ça d'agression sexuelle. On ne parle plus de séduction d'un enfant, mais de pédophilie. Mais si le discours a beaucoup évolué, il est encore vraiment difficile de faire reconnaître comme tel des viols, des agressions sexuelles, des cas de harcèlement en 2018.
Absolument, et même je dirais que le langage se transforme encore, puisque par exemple, quand j'ai écrit mon livre, j'ai parlé de pédophilie, puisqu'à la fin des années 70, il y avait des pétitions pour soutenir, que ce soit dans Libération ou dans Le Monde, des pédocriminels où on disait finalement, ces petites filles, ces petits garçons étaient consentants et c'est super. Au nom du droit à la sexualité des enfants, on était complètement du côté des pédocriminels. Et l'autre jour, une jeune femme est venue me voir et m'a dit « Pourquoi vous utilisez dans votre livre le terme pédophilie? Ceux qui passent à l'acte sont des pédocriminels. » Et je me suis dit « Ah ben oui, c'est vrai, elle a raison. Il ne faut pas dire pédophilie quand quelqu'un passe à l'acte. C'est un pédocriminel. » Et donc finalement, même nous qui sommes féministes, qui utilisons des termes, donc c'est pour ça que vous parlez du droit de cuisson, eh bien, on continue à apprendre parce qu'on a intégré des formules sans même s'en rendre compte, même si on se bat contre les stéréotypes, eh bien nous-mêmes, nous-mêmes nous sommes faits de cette culture et on va avoir tendance à dire pédophile, qui est tout à fait faux par rapport à la question des agressions et des violences sexuelles sur mineurs. Donc effectivement, on parlait de droit de cuissage, et dans l'affaire DSK, on y disait aussi les hommes à femmes, pour parler d'hommes harceleurs, les hommes qui aiment les femmes. Non, comme les pédophiles, ce seraient des hommes qui aiment les enfants. Non, ce sont des hommes qui considèrent les enfants comme des objets. Les hommes à femmes ou les hommes qui aiment les femmes, soi-disant, sont des hommes qui ont un rapport totalement inégalitaire et qui ne considèrent pas que le droit au désir doit être bilatéral.
Eh bien, merci Malka Markovic, merci beaucoup Michel Perrault. C'était le magazine de la rédaction, Combat de femmes de mai 68 à MeToo, un reportage de Sophie Delpont avec Annie Brault à la réalisation et Bruguno Gagnère à la technique. Vous pouvez bien sûr retrouver, réécouter, podcaster ce magazine sur franceculture.fr. C'était une rediffusion de l'émission du 25 mai 2018. Thank you.